Chers amis, la prédication peut être longue et des fois ennuyeuse, mais s'il faut que quelqu'un rentre avec quelque chose, retenez ceci. Lorsque notre vocation est mise à rude épreuve, faisons confiance à Dieu. Lorsque notre vocation est mise à rude épreuve, faisons confiance à Dieu. Vous avez été appelés par Dieu comme il a appelé jadis. Jésus, il a appelé les disciples à le suivre et comme il leur a confié la mission, chacun de nous a été appelé. Et nous avons des orientations diverses. Mais nous servons le même maître. Peuple de Dieu, beaucoup de gens disent qu'il y a crise de vocation. Sûrement, en comparaison avec le temps de nos parents, de nos arrière-parents, cela se donnait corps et âme. Ils étaient intègres dans leur service. Aujourd'hui, hélas, ce n'est plus le cas. Malgré notre niveau de formation plus élevé et notre accès aux moyens modernes de communication par rapport aux générations qui nous ont précédés. Comment expliquer ce phénomène de crise des vocations? De deux choses l'une. Soit Dieu n'appelle plus les hommes et les femmes à son service. Ou alors, les appelés lui ont carrément tourné le dos et ne répondent plus à ses incessants appels. Il faut aussi avouer que la société actuelle, la société dite moderne, ou plutôt post-moderne, est de plus en plus exigeante. Il suffit de voir le profil de celui ou de celle qui doit postuler à tel ou à tel poste. On met tellement beaucoup qu'on se dit, est-ce que c'est possible qu'un humain puisse réunir toutes ces conditions? Je vais tout simplement accentuer le message sur un domaine qui nous est commun, un domaine religieux. Si la société est plus exigeante, ce qui d'une façon ou d'une autre peut frustrer les élans de vocation latente en chacun de nous. Pourtant, il n'y a pas de société humaine fonctionnaire qui puisse se passer des vocations. On a besoin des gens qui répondent à une certaine vocation. D'où la nécessité d'en parler. Dans les pubs, nous avons une journée des vocations. Et des fois, on dit, écoutez, le corps pastoral est vieilli, et si on ne fait pas attention, si on ne recrute pas de nouveau dans quelques 10 ans, 20 ans, 30 ans, il n'y aura plus de pasteur. Notre faculté universitaire lance des campagnes, des journées portes ouvertes pour intéresser les uns et les autres. Mais rares sont les gens qui osent aller voir ce qui se passe là-bas. Heureusement que ma paroisse, comme disait un des hommes illustres du temps passé, ma paroisse, c'est le monde entier. Et du monde entier, Dieu peut appeler, peut susciter des vocations et peut combler le vide. Comme nous ne pouvons pas embrasser tous les domaines, contentons-nous de rester dans le nôtre, le cadre religieux. Le temps du volontariat, qui a beaucoup fonctionné par le passé, semble aujourd'hui révolu. On a plus de pasteurs volontaires qui peuvent en plus de leur temps ailleurs, dans d'autres services, peuvent consacrer du temps à l'Église parce qu'ils sont volontaires. Ce temps est révolu. Lorsqu'on est appelé à servir efficacement les gens d'aujourd'hui, il faut faire preuve d'un certain professionnalisme doublé d'une mise à jour permanente. On peut avoir gravi les échelons de la carrière étudiantine, avoir eu sa licence, sa maîtrise, son doctorat. Mais si après les études, on ne se cultive pas, on ne se met plus en cause pour lire et s'informer davantage, la formation qu'on a eue et les compétences qu'on a développées s'arrêtent à un moment donné de la société. Et comme la société évolue vite, la nouvelle société trouve qu'on ne lui donne pas assez ou suffisamment. Cela tient au fait que notre société est en perpétuelle mutation. Il faut tenir compte de l'évolution des mœurs et des mentalités. Autrement, notre message restera désincarné et n'aura pas d'impact. Les textes du jour n'occultent pas cette difficulté inhérente à toute vocation pour le service du Seigneur. Le premier texte du jour nous parle de la vocation du prophète Jérémie. Et c'était en pleine période de crise sociale, de crise politique, de crise religieuse. Le prophète Jérémie aura été un homme solitaire, voué corps et âme à la cause de l'annonce de la parole de Dieu. Il était incompris et persécuté, mal aimé de ceux-là même qui devraient l'entourer, l'encourager, à commencer par les membres de sa famille. Jérémie n'aura jamais connu le réconfort et les responsabilités de la vie conjugale ou de la vie parentale. Pourtant, il n'a pas renoncé à sa vocation. Jérémie a été incarcéré, brutalisé, entraîné malgré lui vers l'Égypte, et personne ne connut exactement ni comment, ni où, et ni à quelle fin il a terminé sa vie. Une terrible biographie, n'est-ce pas? Comme la plupart d'autres prophètes, Jérémie a accepté, malgré lui, sa vocation. Il avait tant de raisons. Il prit connaissance de sa vocation lorsqu'il était encore très jeune. Il s'en est d'ailleurs beaucoup plaint. Ather enseigne que la tradition a fini par lui attribuer un autre livre biblique intitulé « Les Lamentations de Jérémie ». En lisant ce livre et en lisant le livre de sa prophétie, on peut alors être curieux pour aller creuser davantage et connaître qui était ce bonhomme. Quelle était sa situation? Quel était son contexte? Eh bien, ce ministère s'est exercé dans un contexte politique où les idées étaient partagées. Certaines personnes de son temps voulaient au prix du suicide l'indépendance totale du pays d'Israël. D'autres personnes voulaient tenter une alliance avec l'Égypte pour faire face à la Babylonie. D'autres personnes préféraient se soumettre à la puissance babylonienne, quitte à négocier une certaine autonomie. Pour les ressortissants africains, on dirait que nous sommes dans les années 50 à 65, où ça bouillonne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les avis sont partagés. Comment exercer sereinement son ministère dans un tel contexte? Tel était l'embarras du prophète Jérémie. Pourtant, sa vocation ne pouvait pas être mise en doute, car elle est remontée beaucoup plus loin que sa propre existence sur la terre des vivants. Le texte a dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti du sein, de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alors, il faut parler d'une prédestination, comme si certaines personnes sont nées avec une certaine prédestination à être ceci ou cela. Peuple de Dieu, beaucoup sont ceux et celles qui peuvent dire quand et comment ils sont venus à la foi. Surtout dans le monde évangélique, le jour où il y a eu un déclic, ils retiennent ça, ils écrivent ça. Et lors des témoignages, ils disent, c'était à telle date, à tel moment de la journée, dans telle circonstance. Les autres, on ne sait pas, on est né dans une famille chrétienne, on a évolué. Mais alors, la vocation ne reste pas un mystère qui échappe aux souvenirs des uns et des autres. L'on est avec des prédispositions pour tel ou tel autre ministère. Et j'étais ravi de voir que dans ce culte, tout le monde y met la main. Un culte participatif, un culte où les chanteurs, où les lecteurs, où les autres, tout le monde y met du sien. Voilà une œuvre collective, une œuvre pour le Seigneur, une œuvre qui avance. La vocation n'est pas un choix parmi tant d'autres. La vocation s'impose à l'individu. Et Jérémie a eu beau prétexter n'être qu'un enfant, ne sachant peut-être pas parler, mais c'est la volonté de Dieu qui a prévalu. Ne dis pas, dit le texte, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Chers amis, sans une telle persuasion divine, aucun prophète, aucun apôtre, aucun missionnaire n'aurait quitté son confort apparent pour répondre à l'appel de Dieu, souvent sur des terrains dangereux ou dans des milieux difficiles. Ce fut l'expérience de Moïse. Lorsqu'il quitta son lieu d'exil pour revenir à l'Égypte pharaonique, pour délivrer les Hébreux. C'est Dieu qui s'avère le plus à décider lui-même. Il suscite les vocations et accompagne ses serviteurs pour les délivrer chaque fois que cela s'avère nécessaire. Ainsi, quiconque se met au travers de la mission du serviteur de Dieu ou de la servante du Seigneur, se met au travers de Dieu lui-même. Le Pharaon l'a appris à ses dépens. N'est-il pas temps que nous puissions nous aussi faire un examen de conscience pour voir où nous en sommes avec nos vocations respectives ? Dans l'Église, il y a des anciens, il y a des diacres, mais il y a d'autres ministères aussi. Où en sommes-nous? Comment nous acquittons-nous de nos différentes vocations? Comment discernons-nous la volonté divine ici et maintenant, chaque fois que notre vocation est mise à l'épreuve? Le deuxième texte du jour nous fournit un exemple concret d'une vocation aussi mise à l'épreuve. Il s'agit de Jésus de Nazareth. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Lui aussi fils de Dieu, lui aussi envoyé comme Messie, il a connu les déboires du ministère. À l'instar de Jérémie, il pouvait dire que l'Éternel le connaissait avant qu'il ne fût formé dans le ventre de sa mère Marie. Nous l'avons dit dans notre confession de foi. Qu'il avait été consacré et établi prophète des nations avant même qu'il fût sorti du sein de sa mère. C'était lui le Messie, annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament et qui était tant attendu par l'ensemble du peuple d'Israël. Mais, en plein exercice de son ministère, en tant que prédicateur de la parole divine, avec des exemples à l'appui, le voilà contesté. À tel point que le peuple bénéficiaire du message allait le lyncher. Qu'est-ce qu'il avait dit? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il avait fait de mal pour être l'objet de rejet, même dans son propre pays? Eh bien, Jésus n'avait rien fait de mal, si ce n'est dénoncer l'orgueil spirituel mal placé de ses contemporains. Ces derniers lisaient couramment les Saintes Écritures, mais ils n'arrivaient jamais à les appliquer sur eux-mêmes, en vue de la repentance indispensable pour accéder au royaume de Dieu qui venait. La manière dont Jésus interprétait les Saintes Écritures mettait à nu les imperfections par rapport aux païens qui, en d'autres temps et sous d'autres cieux, avaient accueilli favorablement l'Évangile. L'Évangile qui leur a été prêché. Ainsi, tous les exemples cités dans ce passage de l'Évangile, Capharnaüm, Sarepta, en pays de Sidon et en Syrie. Ces exemples mettent en opposition le territoire juif hostile à l'Évangile au temps de Jésus et le monde des païens qui était plutôt favorable à l'Évangile. Chers amis, il nous faut de temps en temps sonder les prophéties. En dépit donc des circonstances parfois déstabilisantes, rappelons-nous que notre Dieu veille sur nous et peut, au-delà de notre entendement, nous ouvrir de nouvelles perspectives. Quand on tombe après une pluie ou après une chute de neige, c'est normal. Mais c'est anormal de rester à terre. Il faut se relever et continuer sa route avec confiance en Dieu. Jésus n'a pas succombé au plan meurtrier de ses compatriotes. Au contraire, il est passé au milieu d'eux et s'en est allé. Même la crucifixion vendredi saint et la mort qui s'en est suivie ne l'a pas retenu, n'a pas mis fin à sa mission parce qu'il est ressuscité des morts. Il a fait des apparitions pour rassurer ses disciples et il est allé au ciel pour donner rapport que sa mission était bien accomplie après avoir envoyé à mission ceux qui l'avaient suivi. Apprenons-nous aussi à lui faire pleinement confiance, quelle que soit la nature de nos épreuves. Qui n'a pas des épreuves dans sa vie? Les épreuves du moment peut-être dans l'exercice de notre vocation. Jésus a dit à ses disciples, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dieu n'abandonne jamais ceux et celles qui l'a appelé et consacré pour son service. Que son nom soit à jamais glorifié. Amen.